Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux que j'ai pas salués. Voilà. Alors, j'avais à cœur, en tout cas, de vous partager donc une thématique ce soir. J'ai intitulé. J'avais envie de partager avec vous sur la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse regarder. Alors, j'ai mis en dessous un sous-titre, la source du nouveau temple. Je ne sais pas si ça parle à certains. Où est-ce qu'on va y aller ? Non ? Alors, oui, ça aurait pu. On va aller dans Ézéchiel, exactement. Alors, parce que Ézéchiel va avoir une vision qui va nous parler justement de cela, mais avant d'arriver à cette vision-là, j'aimerais quand même donner un peu le contexte. Donc, le prophète Ézéchiel va exercer la majeure partie de son ministère dans une page qui est très sombre de l'histoire du peuple hébreu. La déportation donc de tout le peuple juif en Babylonie. Et ça s'est passé donc sous le règne du roi chaldéen Nabucodonosor, et qui s'est réalisé en plusieurs étapes. Donc dès 605, Nabucodonosor avait fait de la Judée une province de son royaume et avait à cette occasion commencé à déporter donc quelques personnes au fur et à mesure, dont notamment un qu'on connaît très bien, Daniel et ses amis. En 597, il va y avoir donc un premier exil massif, surnommé l'exil de Jojaquin, parce que c'était le roi actuel de l'époque en Judée, de cette période. Et parmi donc les 10 000 juifs qui sont déportés, se trouvait dedans le prophète Ézéchiel. Avant 586, les exilés, donc ceux qui sont en Babylone, s'imaginaient en fait que Jérusalem serait épargnée, qu'il rentrerait bientôt au pays. Mais c'est sans compter sur les visions et les prophéties qu'Ézéchiel reçoit de la part de Dieu. Dieu va donner à Ézéchiel donc plusieurs visions qui auront pour but de dénoncer les péchés du peuple, annoncer aussi la destruction du temple de Jérusalem et enfin redonner espoir aux déportés. Donc j'aimerais voir rapidement les visions d'Ézéchiel. Alors on ne va pas toutes les voir et je ne vais pas rentrer non plus trop en profondeur, mais simplement pour qu'on ait une idée de ce qui se passait à cette époque-là. Donc il y a une vision, je vais aborder trois visions notamment. La première, c'est le chariot de Dieu. Alors, Ézéchiel, chapitre 1, verset 11. Alors, c'est pas ce que Ézéchiel a vu, hein, vous inquiétez pas, c'est juste une illustration. Et en fait, Ézéchiel va se trouver près du fleuve Kébar à ce moment-là. Il est âgé de 30 ans. Et c'est un âge où il aurait dû être consacré, en fait, prêtre à Jérusalem. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit sa première vision de Dieu. En fait, il entrevoit quatre créatures avec quatre faces qui ont quatre ailes sur quatre roues qui supportent un trône où dessus se trouve donc un homme sur ce trône qui a l'apparence d'un homme rayonnant. Et bien qu'il soit difficile pour Ézéchiel de percevoir correctement cette vision, il l'appellera le reflet de la gloire de Dieu. On lit dans Ézéchiel chapitre 1 et au verset 28. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Le mot gloire en hébreu, c'est le mot kabod. Et en fait, ça veut dire honneur, gloire, abondance, respect. Et en fait, ce mot signifie aussi une manifestation physique de la puissance de Dieu. Et en fait, ce que Ézéchiel est en train de voir, eh bien, ressemble à ce qui s'est passé dans Exode, chapitre 24, versets 16 et 17, sur le mont Sinaï. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alors, cette vision, en fait, pose quand même un dilemme. À ce moment-là, lorsque Ézéchiel la reçoit, notamment pour son peuple. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, si c'est la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu fait finalement en Babylonie, en Babylone? Parce que la gloire de Dieu, pour dans la tête des Hébreux, des Juifs, ça se trouvait dans le temple à Jérusalem. Or là, ils voient. Alors pourquoi est-ce que la gloire de Dieu se trouve à Babylone, dans un pays qui est étranger et païen? En fait, la révélation et la solution de Dieu ne viendrait pas du temple à Jérusalem, mais au sein même des exilés. Et dans cette vision, Dieu demande donc à Ézéchiel d'abord d'accuser les Israélites pour leurs péchés et de les avertir que la destruction de Jérusalem est imminente. Et c'est ce que va faire Ézéchiel dans les chapitres 4 et chapitre 5. Et pour cela, en fait, il va pas manquer d'imagination parce qu'il va utiliser différentes manières. Il va, par exemple, on appelle ça des mimes, ou il va faire des mises en scène. Il va, par exemple, construire un modèle réduit de la ville de Jérusalem, et il va mettre en scène, en fait, le siège de la ville pour faire comprendre au peuple. Il va aussi se raser la tête avec une épée, ou encore il va se faire passer pour un bouc émissaire au jour des expiations. Mais malgré tout cela, en fait, le peuple n'écoute toujours pas à cause de leur cœur qui est endurci. Et ça nous rappelle ce qui était passé dans Deutéronome chapitre 30, où Moïse va décrire justement l'attitude du peuple après les révoltes dans le désert. Donc Dieu annonce ici aux exilés qu'il va détruire le temple et la ville de Jérusalem à cause de leur désobéissance, mais aussi à cause du fait qu'ils avaient adoré d'autres dieux. Et l'idolâtrie du peuple d'Israël avait éloigné finalement Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel apprend que Jérusalem est tombée. C'est un homme qui vient lui annoncer. Et en fait, ce que Ézéchiel avait reçu de la part de Dieu, eh bien, c'était accompli. Et là, c'est une page qui est encore plus chaotique pour la nation d'Israël. Et dans l'esprit des exilés, eh bien, ils n'avaient plus d'espoir. Ils savent que Jérusalem est tombée et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est possible de redevenir une nation après cela? Est-ce que c'est possible de se relever après une telle décadence? Mais Dieu n'en avait pas fini. Dieu n'a pas abandonné son peuple parce que la gloire de Dieu n'avait pas disparu. Elle avait changé de lieu. Dieu se révèle à Ézéchiel par deux visions principales pour redonner espoir donc au peuple. La première, c'est la vallée des ossements dans Ézéchiel chapitre 37. Et on lit ça. « La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur, Éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. » Cette vision concerne donc le rétablissement d'Israël qui renaîtra, et on peut le dire, entre guillemets, de ses cendres en tant que nation. Au moment de cette prophétie, tous les exilés sont éparpillés dans tout l'empire de Babylone et ils sont cruellement découragés. Les exilés avaient sombré dans le désespoir. Les ossements ici qu'aperçoit Ézéchiel sont aussi une image des Juifs vaincus et déshonorés par leurs ennemis. Les soldats juifs tués au combat ont été en fait abandonnés sans sépulture. Et c'est quand même quelque chose d'important pour les Juifs. Les ossements, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot, parce que là où il n'y a plus d'espoir, eh bien Dieu apporte l'espoir. Rien ne lui est impossible. Et vous savez que la parole, en plus, nous dit qu'elle est créatrice. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ses ossements, ce qui, on peut le dire d'un point de vue littéraire, n'a pas beaucoup de sens. Mais lorsqu'Ézéchiel obéit, les ossements se sont rassemblés, tendons et chair ont été ajoutés au squelette. C'est ce qui nous est dit au verset 7 et 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné, alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le message de Dieu aux Juifs exilés en Babylone était bien que même s'ils se considéraient comme secs au plus profond d'eux, sans vie, sans espoir, comme des os secs, eh bien Dieu leur annonçait qu'il les restaurerait de la captivité et les conduirait pour revenir en Israël. Ensuite, la vision qui va nous intéresser, c'est celle du nouveau temple, et ça concerne donc les chapitres 40 à 48. Ézéchiel donc va avoir des visions détaillées d'un nouveau temple, notamment dans sa conception, dans son organisation, qui est très différente en fait du temple de Jérusalem qu'il connaissait. Et dans sa dernière vision du nouveau temple, Dieu montre à Ézéchiel le retour de la gloire de Dieu dans ce nouveau temple. Alors certains ont espéré que ce serait un nouveau temple physique, un bâtiment qui serait reconstruit. Et d'ailleurs, lorsque les Babyloniens ont détruit Jérusalem et son temple en 587, en 539, Cyrus, un roi perse, va conquérir la Babylone et va autoriser les Juifs à retourner dans leur patrie. Esdras, chapitre 1, versets 2 et 3, nous dit que « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. » Ici, Cyrus donc autorise les Juifs à reconstruire le temple de Jérusalem. Mais le problème, c'est que même à la fin de la construction de ce temple, eh bien, la gloire de Dieu n'était pas aussi glorieuse que dans la vision d'Ézéchiel. Elle n'était pas aussi réelle, en tout cas. Et malheureusement, nous, on le sait, en 70, ce temple ne va pas résister à l'attaque des armées romaines de Titus, qui va le raser. Il ne restera aujourd'hui que le mur des Lamentations. Voilà. Dans sa vision, donc concernant le nouveau temple, en fait, Ézéchiel va mentionner aussi une source d'eau qui jaillit du sol. On lit donc dans Ézéchiel chapitre 47 et au verset 1, « L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. » Alors cela m'a fait penser à la création, au jardin d'Éden. Parce qu'en fait, cette eau, quand elle est déversée, parce que dans sa vision, c'est Ézéchiel, quand cette eau, elle jaillit, elle déverse, en fait, elle va, au contact de la terre, il y a des arbres qui vont pousser. Elle va donner la vie. Et cela m'a fait penser donc à la création du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 2, versets 4 à 6, « Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol, mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. » Un autre récit, et c'est ce que Hélène a cité tout à l'heure, fait aussi écho donc à la vision d'Ézéchiel que l'on trouve dans l'Apocalypse au sujet de la création de la Nouvelle Jérusalem. Chapitre 22, versets 1 et 2. « Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau et il coule au milieu de la place de la ville. » Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Ce que l'on peut noter ici, c'est que dans sa vision de ce nouveau temple, eh bien, c'était pas un temple physique. C'était pas un temple, je dirais, un bâtiment. Et je dirais que dans cette vision qu'Ézéchiel a à ce moment-là, eh bien, elle est quelque part inscrite entre ce qui s'est passé, donc à la création, et ce qui se passera lors de la nouvelle Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ce nouveau temple glorieux, finalement, peut représenter pour nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que ce torrent de vie pour nous? Eh bien, ce nouveau temple, si ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, pardon, lui-même. Jésus dira « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, il parlait du temple de son corps. Oui. Jésus est donc le temple où la gloire de Dieu se manifeste. Il dira d'ailleurs, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il l'a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jésus est aussi le nouveau lieu de la présence de Dieu où jaillit justement cette source de vie. Si quelqu'un a soif, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Cette eau qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Et dans sa vision, Ézéchiel Et justement, quand on lit ce qui se passe dans la Bible, en fait, il est accompagné d'un homme qui va justement, eh bien, l'emmener dans ce nouveau temple. À l'entrée de ce temple, il va voir donc justement qu'il y a une source qui est en train de jaillir du sol, et l'eau, en fait, est en train de monter de niveau jusqu'à devenir un torrent de vie. Et elle va ce torrent va se jeter dans la mer morte, et là où passe ce torrent, ça produit la vie. Il y a des arbres qui poussent, il y a des poissons, mais elle vient rendre aussi la mer morte saine. Parce que cette eau, elle est pure, elle est limpide. Il est écrit donc dans chapitre 47, versets 8 et 9, l'homme me dit, donc c'est Ézéchiel qui parle, ces eaux s'écoulent vers la région et du pays, elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passe le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Il y aura beaucoup de poissons car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Autrement dit, là où ce torrent passe, il redonne et donne la vie. Il rend ce qui était sec et mort vivant. Le torrent de vie du Saint-Esprit est, à mon sens, donc une image de la plénitude de Dieu. Et vous savez, Paul va dire donc justement aux Colossiens, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. En fait, tout ce qui caractérise Dieu, tout ce qui est en lui, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'amour, la lumière, la vérité, la puissance, la paix, la joie, la sainteté, la justice, la sagesse. Et c'est important pour nous de nous rappeler cette vérité de la parole de Dieu que par notre union avec Jésus, nous sommes pleinement comblés. Parce que Jésus est le chef de toute autorité et de toute puissance. Et cette plénitude de Dieu, nous l'avons donc grâce à notre foi en Jésus et nous y sommes invités à y entrer pleinement dans notre marche chrétienne. Et pour vous, juste, je vous montre cette image. Si je vous montre cette image, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ce que je vois quand j'ouvre les volets de ma chambre. Ce n'est pas ça, mais même si ça me ferait plaisir, mais non. En fait, si je vous montre cette image, c'est parce que il y a deux manières. Il y a deux catégories de personnes pour aller dans la mer. Il y a la première catégorie, c'est souvent les enfants, vous savez, ils vont tout jeter, les vêtements, puis ils vont courir, ils vont juste se jeter à l'eau, complètement. Et il y a une deuxième catégorie, et vous allez voir le parallèle que je fais avec Ézéchiel, qui vont entrer tout doucement, qui vont d'abord mettre un pied, ils vont s'enfoncer tout doucement, l'eau va monter jusqu'au genou, jusqu'à la taille, et puis après, ils vont pouvoir nager tranquillement. Et parvenir à la plénitude de Dieu, je pense que ça demande aussi une progression dans notre vie chrétienne. Tout comme à l'image de ce qu'Ézéchiel va vivre dans sa vision, il y a donc quatre étapes qui se dégagent de sa vision. Donc, c'est les quatre étapes pour vivre la plénitude de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Donc, la première étape, elle se trouve dans le verset 3. Ézéchiel voit l'homme, donc il s'éloigne vers l'est et il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. Il me fait traverser l'eau, j'en ai jusqu'aux chevilles. Première étape. Deuxième étape, il compte encore 1000 mesures, il me fait traverser l'eau, j'en ai jusqu'aux genoux. Troisième étape, il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser, j'en ai jusqu'aux reins. Et enfin, quatrième étape, il compte encore 1000 mesures, l'eau a tellement monté, elle forme maintenant un torrent, je ne peux pas passer, il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Alors bien sûr, c'est un exemple que je vous propose. Mais premièrement, de l'eau jusqu'aux chevilles. Pour moi, c'est une marche dans l'humilité. De l'eau jusqu'aux chevilles, c'est quelque part, vous savez, le premier pas que l'on va faire dans notre marche chrétienne, dans notre foi en Jésus. Et j'aimerais dire, est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin? Est-ce que dans notre marche chrétienne, nous avons, eh bien, passer l'étape de cette première étape où l'eau est à notre cheville. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, à lâcher ce qui nous retient pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu? Parce que je pense qu'on ne peut pas rester au niveau des chevilles. Et pour cela, nous devons laisser Dieu prendre de plus en plus de place dans notre quotidien et notre vie. Paul dira justement, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette expression que les chevilles qui enflent. Alors c'est vrai, pardon, ce n'est pas un problème de santé physique, hein. les chevilles qui hantent, même si ça peut arriver. Mais cette expression-là ne veut pas dire ça. Cette expression, elle veut dire surtout qu'il est prétentieux, le gars. Hein, il prend la grosse tête, il a un peu le melon, là, quand même. C'est une sorte de fierté exagérée. Et je pense que parfois, dans notre manière de parler, dans notre manière d'être, avec les gens, avec les uns et les autres, eh bien, des fois, on peut être un peu prétentieux. Parce que, eh bien, moi, j'ai fait ceci, parce que je fais ce métier, parce que je connais ceci, je connais cela. Du coup, ça me donne le droit, finalement, eh bien, de montrer aux autres que, ouais, je suis capable, quitte même à ce qu'ils subissent, voire même à ce que je les écrase. Quelquefois, on se laisse emporter par nos convoitises, nos mauvais désirs, par justement cette vieille nature qui revient à la charge. Et vous savez, cette expression « chasser le naturel » et il revient au galop. Mais à partir du moment où l'on reçoit Christ, que le Saint-Esprit vient habiter en nous, notre être intérieur doit se transformer. Et c'est dans la logique de Dieu. Et si nous ne prenons pas conscience de cela dans notre vie, on doit se poser des questions. Si on a le sentiment que ça n'avance pas spirituellement dans notre vie, on doit se remettre en question. Évidemment que peut-être ça va demander certaines fois eh bien, de venir nous chercher au plus profond de nous. Ça va, vous savez, comme quand on a la toux, ça va nous gratter à la gorge. Ça va venir gratter notre vieille nature. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et plutôt que de chasser le naturel, soyons humbles, laissons le Saint-Esprit transformer notre naturel. L'humilité, c'est s'abaisser en reconnaissant que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et Jacques dira « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Alors si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous avons part à l'héritage du royaume de Dieu, c'est parce que Jésus lui-même s'est humilié. Il s'est sacrifié pour nous offrir une espérance et une nouvelle vie. La crainte de l'Éternel, la Bible nous dit, enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et en version parole de vie, le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Alors plutôt que de rechercher les honneurs des hommes, il est préférable pour nous de rechercher les honneurs de Dieu. Et si nous voulons plaire à Dieu, eh bien, nous devons être humbles. Et quand je réfléchissais à ça, tant qu'on a en fait les pieds dans l'eau, c'est-à-dire au niveau des chevilles, quelque part on se sent en sécurité. On ne prend aucun risque. On ne risque pas, de se noyer, par exemple. Et par rapport à ça, je me suis dit, mais ouais, en fait, peut-être pour nous, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement ? Est-ce que ça ne peut pas s'apparenter, par exemple, à un manque d'engagement pour servir Dieu ? Une peur de vouloir témoigner de sa foi à un voisin ? Peur d'affronter le regard des gens parce que je suis chrétien ou parce que je vais à l'église ? Peur peut-être de donner plus pour l'œuvre de Dieu ? En fait, il y a tellement de choses. Mais nous sommes appelés à grandir et à progresser dans notre marche chrétienne. Et tant que je reste les chevilles dans l'eau, c'est-à-dire dans cette première étape, ben quelque part, je limite aussi la puissance de Dieu dans ma vie. Et si l'on veut grandir et avancer pour découvrir de nouvelles choses avec Dieu, alors nous devons aller plus loin. Donc, Ézéchiel, dans sa vision, il a les chevilles qui sont remplies d'eau, mais maintenant, l'eau est en train de monter, cette source-là, on ne sait même pas. Il n'y a pas d'affluent qui vient la nourrir, ça sort comme ça du sol. L'eau commence à monter, et là ça arrive sur ses genoux. Deuxièmement, de l'eau jusqu'aux genoux. Une vie de prière. À une certaine époque, vous savez, on pliait le genou devant une personne importante, un roi, une reine, et c'était un signe de soumission. Et en fait, Dieu est notre Père, mais il est aussi notre roi. Et surtout, il est le roi des rois. Il est le roi de gloire. Et lorsque l'on plie le genou pour prier, eh bien, on reconnaît la majesté de Dieu. Et bien plus qu'une posture physique, c'est une posture spirituelle. C'est-à-dire que notre cœur est incliné devant le roi des rois. Et on aime comparer que la prière est comme la respiration du chrétien. Et en fait, c'est vrai que si on se base sur cette comparaison-là, le matin, quand on se lève, je ne prends pas une bouffée d'air et après, je vis en apnée. Non, je respire tout le temps. Je expire, j'inspire, j'expire. Eh bien, la prière, pour un chrétien, c'est un peu la même chose. Si la respiration est essentielle pour nous, pour notre corps physique, la prière est essentielle pour notre âme et pour rester en connexion avec Dieu. Et un chrétien ne peut pas passer une journée sans prier Dieu. Il y a différentes formes pour prier Dieu. Et Paul dira, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si nous pouvons nous adresser à Dieu par nos prières, c'est parce que Jésus a payé le prix. et nous a réconciliés avec le Père. Et je considère la prière comme un privilège, comme un cadeau. Et vous savez, même si on bafouille, même si on écorche les mots, même si on ne fait pas sujet, verbe, complément, qu'on fait l'inverse ou qu'on fait dans le désordre, je pense que Dieu, il est assez grand pour comprendre. Et ce qui compte, c'est vraiment notre cœur, notre disposition de cœur. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en vous, pour vous, en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous aide à cultiver la prière sous toutes ses formes, mais ce n'est pas encore fini, parce que dans la vision d'Ézéchiel, les genoux sont remplis d'eau, l'eau continue à monter, et ce sont maintenant ses reins qui sont recouverts de cette eau qui donne la vie. Troisième mot, de l'eau jusqu'aux reins. Une volonté soumise à Dieu. Les reins, chez les Juifs, c'était un symbole de la pensée et du pouvoir des décisions. D'ailleurs, Jérémie chapitre 17 et au verset 10 nous dit « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Notre volonté doit donc être soumise à celle de Dieu. Et Jésus lui-même dira, vous savez, quand il est dans le jardin de Gethsémané, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et dans le jardin de Gethsémané, Jésus était en train de vivre un moment atroce, difficile. Il sait que ce qui l'attend, c'est la croix. Ça va être compliqué. Et faire la volonté de Dieu, c'est facile quand tout va bien, mais faire la volonté de Dieu quand on traverse des moments difficiles, bien, c'est pas si simple. Pourtant, c'est ce que Dieu désire, que notre volonté soit soumise à la sienne, même quand c'est difficile, même quand ça peut nous coûter. Et pour que notre volonté soit soumise à Dieu, il nous faut, bien sûr, passer du temps avec lui, prier, lire et méditer sa parole. Et je dirais que plus eh bien, nous passerons du temps, plus nous allons baigner dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, eh bien, plus notre vie aura le goût du Saint-Esprit. Vous savez, on aime la viande qui est marinée. Moi, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime bien mariner la viande pour un barbecue. Et j'aime bien parce que quand la viande, elle est marinée, quand on la fait cuire sur le barbecue, il y a les arômes qui sont là, ça sent bon, ça donne envie. Et quelque part, on doit baigner dans le Saint-Esprit. On doit mariner dans le Saint-Esprit. Et plus nous marinerons dans le Saint-Esprit, plus nous dégagerons ce goût divin, cette saveur pour ceux qui nous entourent. Un goût et une odeur du ciel. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit est apte à comprendre et à recevoir la volonté de Dieu. Les reins, c'est aussi un symbole de la force. D'ailleurs, mesdames, un des proverbes 31 de la femme vaillante, forte ou vertueuse, nous dit, au verset 17, « Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. » Cette phrase fait référence donc à l'acte d'enrouler sa tunique. C'était donc le vêtement courant pour les hommes et les femmes à l'époque. Et en fait, de la mettre sous une ceinture pour la nouer. Et d'une manière générale, les hommes saignaient leurs reins s'ils se préparaient à s'engager dans une bataille, à parcourir de longues distances, à effectuer un travail pénible ou encore à participer à des courses intenses. Un peu comme Élisée. Dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 46, je ne l'ai pas noté, mais il nous est dit « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Et quelque part, en fait, on a tendance parfois à vouloir faire certaines choses par nos propres forces. Pourtant, la Bible nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et lorsque l'eau se trouve au niveau de nos reins, eh bien, des fois, ça peut être plus difficile de résister ou de chercher à bouger par rapport à l'eau qui est au niveau de nos chevilles ou aux genoux. Et dans certaines situations, on va essayer de forcer les choses, alors que des fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre esprit doit donc être soumis au Saint-Esprit. Et je dirais que les décisions, certains choix, certaines même directions, nous devons les prendre avec l'aide du Saint-Esprit. Comme Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors que Dieu grandisse et que son esprit ait toute la liberté de prendre de plus en plus de place dans notre vie et que nous diminuons. On aime prendre du temps pour les gens que l'on aime. On n'hésite pas à mettre de côté certaines tâches, certaines activités pour passer du temps avec eux. Et quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est ce que Dieu a fait en donnant son Fils Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier et n'a pas cherché à compter ceux qui étaient légitimes de son amour. En aimant Dieu, nous pourrons saisir sa volonté pour nos vies. Mais ce n'est pas tout. On doit désirer encore plus avec Dieu, on doit aller encore plus loin. Parce qu'après que les reins d'Ézéchiel soient recouverts d'eau, ben l'eau ne s'arrête pas de couler. Elle continue et elle monte de niveau pour devenir un torrent. Et en fait, quatrièmement, de l'eau jusqu'à ne plus avoir pied, c'est pour moi une pleine confiance en Dieu. En fait, c'est ici, quelque part, la dernière étape pour vivre la plénitude de Dieu. C'est lorsque nous vivons en ayant une véritable confiance en Dieu. Autrement dit, nous sommes complètement plongés dans l'Esprit de Dieu. Cette source d'eau qui était petite au départ s'est transformée en un torrent. Et Ézéchiel, dans sa vision, il n'a plus pied. Le seul moyen qu'il trouve pour traverser justement ce torrent, c'est de nager. Mais il le dit lui-même, c'est un torrent qu'il ne peut pas traverser. Autrement dit, il n'a plus le contrôle, il ne peut rien gérer. Et cette image, c'est l'image d'un torrent. Impossible de nager dedans. Enfin, je ne sais pas vous, mais je ne m'aventurerai pas à nager dans ce torrent-là. Et spirituellement parlant, bien, lorsque nous nous laissons complètement emporter et guider par Dieu, c'est quelque part aussi un appel à sortir de notre zone de confort. Ce n'est plus moi qui gère, mais c'est Dieu. Je laisse le volant de ma vie entre les mains de Dieu. Et à ce moment-là, l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est comment je fais, comment faire lorsque le Saint-Esprit m'amène à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Comment réagir lorsque Dieu me pousse à aller plus loin dans ma communion avec lui, en priant lent, en exerçant un don spirituel, etc. Est-ce que c'est la peur qui va dicter notre conduite ou bien c'est le Saint-Esprit? Parce que dans la vie de l'Esprit, c'est Dieu qui conduit, qui contrôle tout. Et la peur agit comme un paralysateur et vient souvent avorter les plans de Dieu dans nos vies. Tout comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés avec Moïse, juste à quelques kilomètres de la terre promise. Ils ont laissé la peur regagner leur cœur, leurs pensées, et le peuple était même prêt à retourner en Égypte, remettre les menottes et retourner esclaves. Mais dans un torrent aussi, c'est impossible de nager. Et lorsqu'on essaie de nager à contre-courant, on risque fortement la noyade. Et parfois, il peut y avoir des luttes au fond de nous entre nos pensées, entre ce que l'Esprit de Dieu vient nous dire, entre ce que nous voulons faire et ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. On essaie de nager avec nos pensées, nos convictions humaines contre le courant de l'Esprit. Paul dira, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, écoutons-le pour faire ce qu'il nous demande, prenons des temps des qualités avec Dieu. On dit souvent dans nos prières, Seigneur, aide-moi. C'est pas mauvais, on a le droit. Mais peut-être qu'on pourrait reformuler cela en disant, Seigneur, comment puis-je être utile pour toi aujourd'hui? Parce que lorsque nous prions comme ça, Dieu saura nous le dire. Je veux que tu sois là. Je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu parles de moi à cette personne. Je veux que tu aides cette personne. Je veux que tu pries, que tu passes du temps avec elle. Parce que la réalité, c'est qu'on fait beaucoup de choses en demandant à Dieu. Aide-moi. Donne-moi la force dans ce que je fais. Alors que parfois, il ne nous a pas demandé de le faire. Et les conséquences, c'est que l'on va s'épuiser, on va se fatiguer et on va se décourager. L'important n'est pas de faire les choses pour Dieu, mais c'est de faire les choses avec Dieu. Et il vaut mieux avoir Dieu dans ses affaires, dans nos affaires, qu'avoir affaire à Dieu. Parce que si nous faisons la volonté de Dieu, alors Dieu nous soutient, Dieu nous encourage, Dieu nous équipe au fur et à mesure et nous pouvons avoir confiance dans ce que nous faisons parce que Dieu est avec nous. Enfin, dans sa vision, dans les visions d'Ézéchiel, l'homme qui est avec lui va finalement le ramener au bord. Et quelque part, il lui évite la noyade. Et j'aimerais vous dire, avec Dieu, c'est impossible de se noyer. Dieu ne nous abandonne jamais. Alors, je laisse cette image-là, parce qu'on peut être parfois découragé, voire brisé, comme les Israélites en exil à Babylone. Mais n'oublions pas que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ézéchiel a été porté par cette espérance de la gloire du nouveau temple, de cette source d'eau de vie qui sortait du temple pour visiter, vivifier et purifier son peuple. Alors nous pouvons nous aussi être portés par cette espérance de ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Mais pour aujourd'hui, on connaît Jésus, on l'a accepté. Nous avons le Saint-Esprit qui a été répandu depuis le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu nous donne une vie riche de sens et fait grandir en nous le fruit de l'Esprit. Et ce torrent de vie, lorsqu'il nous traverse, il nous rend acteurs pour apporter la vie, parce que c'est le but principal de cette source de vie. Nous avons été créés, nous avons été bénis pour donner et non pour accumuler. Dans un monde qui court à sa perte, avec, vous savez, moi je trouve qu'il y a quand même une odeur de mort qui est là dans le monde. Quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, les injustices qu'il y a, les guerres, tout ça, il y a quand même une odeur qui n'est pas bonne qui est là. Eh bien nous, rachetés en Christ, nous sommes appelés à répandre la vie de cette source autour de nous. Cette grâce de Dieu, cette vie abondante doit être partagée autour de nous. Donc par notre relation avec Dieu, en Jésus-Christ, nous portons la gloire de Dieu en nous, nous avons accès à la plénitude de Dieu et nous sommes par son esprit pleinement comblés, vivifiés et restaurés pour progresser dans notre marche chrétienne. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé autour de ta parole. Merci pour cette parole vivante. Merci pour cette source d'eau vive qui coule, qui traverse nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, avec toi, nous avons cette plénitude, Seigneur, qui se trouve en toi. Alors donne-nous vraiment de marcher par la foi avec toi, de marcher selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, et d'être, oui, ces canaux de bénédiction autour de nous qui répandons la vie, Seigneur, autour de nous. Merci Jésus pour ta parole et raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos demeures, au nom de Jésus. Amen.